Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bon après-midi chez vous, chers auditeurs et internautes. Voici venu le moment de suivre Bana Okapi, votre magazine préféré. Ce programme de Radio Okapi dédié aux jeunes et plus jeunes financé par l'UNICEF traite des sujets liés à la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et la protection des droits des enfants. En effet, du 16 au 19 septembre 2024, les acteurs du secteur de l'éducation en RDC avaient participé à l'élaboration du nouveau plan stratégique pour l'après-2025 à Kinshasa. C'était au cours de travaux de la revue conjointe de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. À l'initiative du ministère de l'Éducation, ces assises se proposaient de faire le diagnostic profond du système éducatif congolais avec ses faiblesses, ainsi que ses opportunités et ambitions. Le système éducatif de la RDC a-t-il besoin de changement? Quel changement faut-il apporter à ces systèmes? Restez avec nous et ensemble allons découvrir au travers des experts les changements à apporter au système éducatif congolais. Ce magazine est présenté par Sarah Sumbela, mise en onde de Alain Goyer, une réalisation de Gisèle Cage sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelili, Dijano, avec la participation de toute l'équipe de Bana Okapi. 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 Bienvenue à ceux qui nous prennent en cours de diffusion. Sachez que vous êtes sur la 103.5, la fréquence de la paix, qui vous propose son magazine Bana Okapi. Il est question dans ce numéro de savoir si le système éducatif de la RDC a-t-il besoin de changement. Nous allons ainsi à la rencontre des enseignants de quelques grandes villes du pays pour récolter leur avis sur cette question. Et notre tour d'horizon débute à Beni, au Nord Kivu, où Gravis Salomon s'entretient avec quelques enseignants. Ces enseignants trouvent opportune la réforme du système éducatif en RDC, particulièrement au niveau du primaire et du secondaire. D'après ce professionnel de la CRE, plusieurs défis restent encore à relever pour sa viabilité au regard de failles qu'il présente dans l'éducation des élèves. Écoutons-les tour à tour au micro de Grévis Salomon.
Le système éducatif congolais est en train de se dégrader davantage parce que nous, quand nous avons étudié, ce n'est pas le même rythme que nous sommes en train de vivre actuellement. Et surtout, le niveau des élèves est en train de baisser sensiblement. On manque s'il s'agit de ce système qui est en train d'endommager, on manque si c'est le niveau des élèves qui est en train de baisser, alors ça fait une dislocation. Et surtout que nous vivons dans un pays qui privilégie le français comme langue officielle, une langue d'éducation. À ce moment, je parle en tant qu'enseignant de français. Et nous devrons répondre aux injonctions de l'inspection par le biais de différentes méthodologies qui naissent ici et là pour privilégier le français dans l'apprentissage de tous les cours. Raison pour laquelle nous devrions d'abord respecter les normes et les injonctions de l'inspection.
Vous le savez bien, le cas de la ville de Beni, nous avons des écoles de différents degrés. Il y a des écoles dites non conventionnées, des écoles conventionnées et des écoles privées. Mais si vous entrez dans des écoles conventionnées, vous allez constater que pas mal d'écoles ont encore des bâtiments qui datent de longtemps, des bâtiments qui méritent la réhabilitation ou soit la construction. Vous entrez dans une salle de classe, certains élèves se mettent dans des conditions qui ne permettent pas l'évolution de l'enseignement dans une école. Pour dire que les infrastructures existent, oui, mais il faut les réhabiliter ou soit construire d'autres pour certaines écoles ici en ville de Beni. Pour le cas des enseignants, il nous faut une formation. Par exemple, vous allez trouver que dans une école, il y a des cours qui méritent des appareils. Peu de théorie, beaucoup de pratiques. Mais vous trouverez que les théories dominent sur les pratiques et cela influence le niveau éducatif des enfants. Pour dire que les enseignants doivent être formés selon le niveau de tout et chacun, surtout qu'actuellement nous sommes au 21e siècle, tout est vraiment modernisé, tout est vraiment informatisé.
Les obstacles sont nombreux. qui nous amène à ne pas réaliser convenablement notre tâche ou notre profession de manière recommandée. Nous voulons d'abord rappeler certaines normes qui étaient quand même prises en compte par l'homme blanc à l'époque belge, mais qui ne sont plus tenues en compte avec l'arrivée de notre indépendance jusqu'à nos jours, où les dirigeants ne sont pas en train de mettre en considération ces systèmes éducatifs et qui empiètent aussi sur le bon fonctionnement de ces systèmes afin d'atteindre notre finalité. Nous voulons énumérer par exemple la non-prise en compte de ces formateurs qui sont censés éduquer, constituer la base de l'éducation nationale, notamment les enseignants, qui amènent à ne pas considérer que ces métiers soient aussi pris avec toute considération de la part de l'enseignant, parce que ces enseignants sont pris comme des ouvriers supplémentaires à ceux qui sont pris avec toute noblesse. Mais nous voulons indiquer que si l'homme congolais, le dirigeant congolais, peut répondre favorablement aux conditions qui doivent être requises pour ces professionnels de la craie, le système peut être amélioré sans problème. L'homme congolais a pris le pourcentage considérable dans le budget national pour que l'enseignement ait de bonnes qualités et que l'enseignant puisse comprendre qu'il doit se concentrer sur ses métiers, mais ce qui n'est pas le cas. Mais aussi, nous avons estimé que notre département, qui est l'éducation nationale, n'a pas été considéré. Et d'ailleurs, après le départ de M. Makere Mwangu, on n'a pas encore réussi les gens capables de bien améliorer l'enseignement en RDC. Pour dire, même les réformes qu'ils sont en train d'indiquer dans l'enseignement sont copiées du modèle des Européens qui ne cadrent pas avec la réalité du milieu et qui les amènent à ne pas aussi atteindre les objectifs, étant donné que l'enseignant n'est pas outillé par rapport au programme qui prend les modèles européens, et tellement que nous sommes en RDC où il n'y a pas le matériel comme ceux qui se trouvent en Europe, cela nous amène à ne pas atteindre les objectifs et ça constitue déjà les obstacles auxquels nous sommes en train de nous heurter ou de nous buter pour ne pas réaliser ces métiers.
Sur le plan matériel par exemple, la politique éducative peut concevoir un système alors que les écoles sur place ne sont même pas en mesure de transmettre les compétences aux enfants suivant ces nouveaux programmes. C'est que si la politique peut adopter un nouveau programme, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Par exemple, les infrastructures ne répondent pas aux critères, disons les enseignants non outillés, les enseignants non formés au préalable, et cela constitue l'entorse à l'apprentissage des sciences. Les défis sont à relever, bien sûr. Par exemple, lorsque les politiques conçoivent un programme quelconque, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Mais aussi, nous allons demander à l'inspection de faire suivi avec sérieux pourvu que les enseignants soient outillés et qu'ils parviennent à transmettre des compétences comme il le faut.
La façon que se passe l'enseignement au Congo, depuis plusieurs années, nous avons vu même au niveau de l'apprentissage, l'éducation était d'abord une priorité. Mais en ce jour, bien qu'elle soit une priorité, vous allez sentir que la démocratisation de l'espace scolaire a amené beaucoup de difficultés, au point que les enfants veulent amener une sorte d'indépendance dans leur éducation, ne sont plus concentrés. Parce que dans l'État, l'enfant était dans une soumission devant l'éducation. Il pouvait à tout prix se soumettre. Mais vous allez constater en ce jour, il y a une sorte d'indépendance. L'enfant essaie un peu de déconsidérer la charge scolaire, amène aujourd'hui à la légèreté. Pendant que dans l'état passé, la femme devrait se soumettre, devrait prioriser à toutes circonstances son éducation. Et donc, il y a un allègement des lois par rapport à l'éducation. Et cela a amené plusieurs enfants à ne pas se concentrer. Et cela impacte négativement sur les résultats ou même la formation de la femme. C'est-à-dire, la femme doit mettre en appui ou en amont ou alors en avance son éducation. Mais vous allez comprendre dans ce système, si la femme ne se met pas dans sa formation, lui-même il va en payer le prix. Pendant que dans l'état passé, la FA était dans une obligation. Imaginez-vous, lorsque l'enseignant pouvait mettre un exercice à notre époque, on dit qui finit
part. C'est-à-dire, si tu n'as pas encore résolu, tu ne sors pas de la classe. Voilà la manière qui a mené aux enfants de se concentrer et à tout prix à réussir. Donc la réussite était une condition. Et aujourd'hui, il y a vraiment une légèreté. Et je pense que la réforme serait vraiment importante. Et cette réforme serait importante d'une manière juridique. On doit commencer d'abord par les textes qui régissent. Anéantir la force démocratique dans l'enseignement, ce n'est pas même une dictature, mais une imposition, une rigueur au sein de l'éducation.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Après Béni, allons à Bukavu, Sud Kivu. Rachel Kissé nous accueille en compagnie d'un autre enseignant. Le système éducatif congolais utilisé jusqu'à ces jours est un programme archaïque. C'est du moins ce que pense Madame Furaha Biruru, enseignante au complexe scolaire Miracle de Bukavu. Elle demande aux autorités de l'éducation de revoir ce système en mettant en place un système avec de matières pratiques et non seulement théoriques. Elle appelle également les enseignants à se mettre à jour en se cultivant.
Madame Furaha Biruru, bonjour.
Bonjour madame.
Quels sont, selon vous, les principaux défis actuels du système éducatif en RDC?
Nous avons trouvé à notre niveau que, dans notre pays, en RDC, l'éducation que nous avons et les programmes que nous sommes en train d'utiliser, c'est un programme archaïque qui n'amène pas les enfants à se développer comme il le fallait, comme ça s'est fait dans le pays étranger, surtout en Occident. Parce qu'ici, chez nous, en RDC, les mêmes programmes que les colonisateurs avaient laissé depuis les années 1960, c'est presque le même programme qu'on essaie d'utiliser. Même si on peut innover, mais c'est une innovation qui ne rencontre pas vraiment les souhaits des élèves. Parce que quand l'enfant termine l'école primaire, directement on l'oriente à l'école secondaire et après ça, il fait son université, mais il n'a pas vraiment des capacités de faire quelque chose qui pourra l'aider dans la vie future. Nous, on demanderait à l'État congolais s'il y a moyen qu'il puisse aussi se ressourcer ailleurs pour voir si les élèves qui terminent l'école primaire, ils peuvent être en mesure de faire aussi des spécialisations. S'ils terminent l'école primaire, un enfant peut être en mesure de monter quelque chose qui pourra l'aider dans la vie. Ce n'est pas seulement la théorie, mais nous voulons que tout soit pratique pour aider nos enfants. Parce que si nous voyons à l'extérieur, on est en train de le montrer à l'Internet. Un enfant de 12 ans qui vous monte un petit véhicule, un enfant de 12 ans qui fait des exploits que nos enfants ne sont pas en mesure de faire si ce n'est que la théorie.
Quel changement aimeriez-vous voir dans le système éducatif pour améliorer la qualité de l'enseignement?
Les changements que nous voulons d'abord que l'État puisse mettre à la disposition des écoles les matériels qu'il faut pour amener les enfants à s'épanouir dans la vie future. Et aussi, nous voulons de ne pas se borner au niveau de la théorie seulement. Si au moins les enfants peuvent faire la pratique, c'est ça ce qui est mieux. Parce que si d'autres pays sont en train de se développer aujourd'hui, c'est parce que les enfants, on leur apprend à faire la pratique à partir de l'école primaire. La chose qui ne se fait pas ici chez nous, en RDC.
En parlant de la pratique, quel type de formation supplémentaire serait bénéfique pour les enseignants?
Que l'État puisse organiser des séances de formation pédagogique et que dans ces séances de formation pédagogique, qu'on nous donne aussi des modules parce que des fois nous passons des formations pédagogiques sans modules de référence et après ça on termine et ça se passe comme ça. Nous pouvons aussi demander à notre État qu'il puisse fournir des ordinateurs dans des écoles, parce qu'il y a beaucoup d'écoles où on enseigne même l'informatique sans ordinateur. L'enfant peut vous terminer la sixième primaire, il n'a jamais manipulé l'ordinateur. Alors nous demandons aux autorités de nous donner des ordinateurs et aussi nous donner les réseaux Internet dans des écoles.
Aujourd'hui, nous savons que les élèves que vous enseignez, ils sont beaucoup informés, hein. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont connectés. Quels sont les obstacles ou comment les ressources pédagogiques peuvent-elles être mieux adaptées aux besoins des élèves? Comment vos enseignements peuvent-ils rencontrer le besoin de vos élèves?
Dans notre école ici, au complexe scolaire Le Miracle, moi, je félicite d'abord les dirigeants de cette école parce qu'ils nous ont donné au moins l'équipement qu'il faut pour encadrer nos enfants. Nous avons un labo informatique avec plusieurs machines où au moins chaque enfant accède à la machine. Nous avons aussi des leçons que nous ne donnons plus dans l'abstrait, les leçons d'observation. Chaque fois qu'il y a une leçon d'observation, nous amenons les enfants dans les labos informatiques. On fait la projection, nous voyons tout ce que nous donnons aux enfants. C'est-à-dire que pour nous, à l'école, au complexe scolaire Le Miracle, l'Internet, c'est déjà un acquis. Nous l'avons, nous l'utilisons chaque fois que nous avons besoin. Et là, nos enfants, vraiment, ils sont satisfaits. Des fois, quand vous montrez l'image, les enfants qui vous disent « nous avons déjà vu ça », ou alors ils en profitent, d'autres en profitent. Pour eux, c'est la première fois et c'est un bon épanouissement pour nos enfants.
Donc cela nécessite aussi que les enseignants soient aussi bien informés pour que lorsqu'ils sont devant les enfants, qu'ils ne soient pas surpris aux questions que les enfants pourraient leur poser.
Ici, chez nous, les enseignants, ils sont informés par rapport à l'équipement. Et aussi, avant de donner la leçon, nous nous arrangeons. Avant de donner la leçon, on se prépare d'abord. On essaie de checker la machine, voir ce qu'on va donner pour ne pas tomber dans le tâtonnement.
Et par rapport aux autres matières, comment vous vous préparez, vous les enseignants, ici?
Ce sont les leçons d'observation. Nous les faisons par Internet. Mais si ce ne sont pas les leçons d'observation, nous faisons des documentations dans des manuels parce que nous avons au moins une bibliothèque avec beaucoup de manuels. Là, on essaie de se ressourcer.
Qu'est-ce que vous diriez à ces autorités qui vous suivent, pas seulement les autorités, mais aussi les promoteurs d'école, les directeurs d'école qui vous suivent à travers Radio Okapi? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que leurs écoles aussi rencontrent les besoins des élèves et que le système éducatif s'améliore?
Je demanderai aux autres promoteurs et aux directeurs des autres écoles qui n'ont pas d'équipement de demander à l'État congolais, et je demande aussi à l'État congolais, d'ailleurs c'est par là que je devrais commencer, je demande à l'État congolais, aux promoteurs des écoles, ainsi qu'aux directeurs, d'équiper leurs écoles. Parce qu'avec la technologie aujourd'hui, en tout cas c'est impossible d'enseigner dans le vide. Des fois les enfants viennent à l'école, ils ont déjà un plus que nous n'avons pas. Alors s'il n'y a pas d'équipement là, ça sera une façon de les tromper, si je peux le dire.
Quels sont vos espoirs, vos attentes pour l'avenir du système éducatif en RDC? Dans 10 ans, comment voudriez-vous que le système éducatif congolais soit par rapport au système d'aujourd'hui?
Toutes les écoles appartiennent à l'État. Nous demandons à l'État d'améliorer la qualité de l'enseignement en se référant aux pays occidentaux. C'est ça ce que nous pouvons demander à l'État. Parce que si nous essayons de voir ce que les gens sont en train de faire là-bas et ce que nous faisons ici, vraiment, il y a une très grande différence.
Mais aussi par rapport à vous, enseignants, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à d'autres enseignants pour que vous soyez aussi au niveau qu'il faut pour rencontrer les attentes des élèves?
Nous pouvons leur dire aussi de se documenter comme nous, parce que nous nous documentons dans nos manuels, et aussi qu'ils aient aussi cet outil informatique. En tout cas, aujourd'hui, enseigner sans l'outil informatique, je dirais qu'on est en train d'enseigner dans le vide. Et aussi, ce qui est en train de faire à ce que le système éducatif échoue en RD, c'est les salaires. Les enseignants ne sont pas bien rémunérés dans certaines écoles. Je ne dis pas ici chez nous, en tout cas, je dirais que c'est l'exception. Mais dans d'autres écoles, les enseignants ne sont pas bien rémunérés. Aujourd'hui, vous pouvez assister au système de grève au Congo.
Oui, il y a en cours d'ailleurs.
Très bien. Il y a des écoles qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore commencé l'activité depuis le mois de septembre. Tout ça, ce sont des failles. Et c'est ça ce qui fait que le système éducatif en RDC est en échec.
Madame Foura Biroro, je vous remercie.
Merci, madame.
Connaissez-vous la MPOX? C'est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact direct de l'animal trouvé mort ou malade avec ou sans signe de Mpox à la personne non malade. Entre les hommes, la transmission de la Mpox s'est faite à travers des lésions, voire plaies, des liquides organiques comme la sueur, des gouttelettes respiratoires, des objets souillés par des malades de Mpox et le rapport sexuel avec une personne malade de Mpox. Pour nous protéger contre la Mpox, il faut éviter de toucher les animaux malades ou trouvés morts sans cause, éviter tout contact physique ou sexuel avec une personne malade de Mpox et éviter tout contact avec les objets souillés par de malades de Mpox.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler gratuitement au 151. Adressez-vous directement à un prestataire de santé ou à un agent de santé communautaire.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Excellentes conditions de goût à vous, chers auditeurs et internautes. Bienvenue dans la seconde partie du magazine des jeunes et plus jeunes. Le magazine Bana Okapi de ce jour traite d'un sujet sur le système éducatif de la RDC. Est-ce que ce système a-t-il besoin de changement? En effet, le gouvernement de la RDC veut développer les systèmes éducatifs congolais à travers la mise en œuvre de différentes réformes qu'elle préconise. Qu'en pensez-vous? Dans cette seconde partie du magazine Bana Okapi, nous allons écouter les avis des experts pour savoir quels changements le gouvernement de la RDC veut apporter à ce système éducatif. Sarah Soumbel est à la présentation de ce numéro de Bana Okapi, mise en onde de Alain Goyi, une réalisation de Gisèle Cage, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele, Dijano. Ce magazine connaît la participation de Plamidi Mbiyavanga, Grâce Nvozolo, Rachel Kessé, Ezekiel Mouzalia, André Kitenge, Jeff Opela, Grévis Salumu, Étienne Lissumbu, Guylaine Kassassia et Stanislas Diumi. Cette seconde partie s'ouvre.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
Le système éducatif de la RDC a-t-il besoin de changement? Après avoir écouté les enseignants de Beni et Bukavu, suivons maintenant l'avis d'un parent, mais cette fois-ci, nous sommes à Kinshasa, avec notre reporter et enseignant, Grâce Nvozolo.
Monsieur Odonkela, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment trouvez-vous les systèmes éducatifs actuels en République démocratique du Congo?
Les systèmes éducatifs actuels dans notre pays connaissent beaucoup de failles. Notre système d'éducation connaît beaucoup de failles. Pour moi, la responsabilité à la base de toutes ces failles est partagée. Partagée entre le gouvernement d'un côté, les parents de l'autre côté et l'enseignant aussi.
Pensez-vous que les systèmes éducatifs du pays s'adaptent aux standards internationaux?
S'adapter, pas tellement, mais c'est possible que ce système s'adapte. Mais actuellement là, je ne crois pas que notre système éducatif s'adapte aux standards internationaux.
Alors qu'est-ce que vous reprochez exactement à ces systèmes?
Si vous allez me permettre de relever quelques causes.
Allez-y.
Oui, la première des choses, les enseignants sont négligés. Les enseignants sont négligés, c'est-à-dire ils ne sont pas bien payés. L'enseignant est très mal payé. Alors parfois, ils ne se donnent pas corps et âme à la formation de la jeunesse. Parce que ça, c'est normal. Un ventre affamé, il n'y a point d'oreille. Alors, l'enseignant qui n'est pas bien payé n'a pas vraiment de temps à s'asseoir pour réfléchir et penser à ce qu'il va donner à l'enfant. Autrefois, l'enseignement était un domaine où tout le monde voulait y aller. Et l'enseignant était parmi les personnes de haute qualité dans la société. Mais aujourd'hui, ce même enseignant est négligé parce qu'il n'est pas bien payé. Il n'a pas le temps de se concentrer à faire de recherches pour donner le meilleur aux enfants. Aujourd'hui, vous allez constater que l'enseignant est devenu cumulard. Le même enseignant qui doit enseigner dans telle école va enseigner dans telle autre. Peut-être il va dans deux, trois écoles. Pensez-vous que cet enseignant a le temps de préparer la matière suffisamment pour qu'il aille donner une bonne formation aux enfants? Moi, je crois non. Donc, l'État devra revoir la situation de l'enseignant, payer l'enseignant comme il faut, comme les autres. Comment voulez-vous un enseignant licencié, on lui donne moins de $200, mais un licencié en médecine, en droit, parce qu'il est magistrat, il est médecin, on lui donne beaucoup plus d'argent qu'un licencié qui est enseignant. Pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi cette injustice? Moi, je crois que si on doit améliorer la condition de l'enseignant, cet enseignant est capable de faire de bonnes choses et de remonter le système éducatif de notre pays.
Quels changements aimeriez-vous voir dans les systèmes éducatifs pour améliorer la qualité, bien sûr, de l'enseignement?
Le premier changement, c'est l'amélioration de conditions salariales de l'enseignant. Le deuxième changement, c'est de pouvoir équiper les écoles en ouvrage. Beaucoup de nos écoles aujourd'hui n'ont pas de bibliothèque. À l'époque, chaque école avait une bibliothèque. Aujourd'hui, nos enfants ne lisent pas. Et surtout, avec l'arrivée du téléphone portable, nos enfants ne lisent plus. Les bibliothèques sont foutues. Il n'y en a presque pas dans nos écoles. Vous allez sillonner dans nos contrées ici. Vous allez me dire combien d'écoles ont de bibliothèques. Alors, moi, je crois que l'État devra penser à équiper les écoles en ouvrage. Que chaque école ait une bibliothèque et une bibliothèque bien équipée. Non seulement ça, les laboratoires, les ateliers, tout ça. Il y a des écoles qui organisent des options techniques, mais qui n'ont pas de matériel. Vous allez trouver dans une école la section informatique. Mais quand vous entrez dans cette école-là, il n'y a aucun ordinateur. Il n'y en a pas. Vous allez peut-être trouver un seul ordinateur dans le bureau du secrétaire ou bureau du préfet ou promoteur, et c'est fini comme ça. Mais il y a l'informatique. Vous allez dans une école qui organise la coupe couture. À peine deux machines à coudre. Comment voulez-vous que l'enseignement s'adapte au système standard international? Il faudra équiper toutes les options. Il faudra les équiper. Parce que beaucoup d'options n'ont pas de matériel. Et nos écoles, surtout les écoles privées, qui naissent tout le jour, certaines de ces écoles sont à la base aussi de cet aspect de faille que nous avons épinglé dans nos écoles. La plupart de ces écoles n'ont pas de matériel. Parfois aussi n'ont pas d'enseignants qualifiés. Mal payés par les promoteurs, parce que les promoteurs ont fait de ces écoles leur boutique. Ils voient plus leurs intérêts au lieu de privilégier l'intérêt des enseignants qui forment les enfants. Les enseignants sont négligés et les promoteurs sont des patrons. Alors ces enseignants ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Alors que l'État essaye un peu de répertorier toutes les écoles privées et essaye de les subventionner. Parce qu'il y a des pratiques qui se passent dans ces écoles-là, c'est à déplorer. Si nous pouvons nous mettre à citer les quelques pratiques que nous connaissons, c'est vraiment bizarre. Mais nous demandons à notre État de pouvoir s'investir et voir qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui marche dans ces écoles et les subventionner au besoin.
Vous venez de dire que la responsabilité est partagée. Les parents aussi ont une part de responsabilité. Alors, que peut être l'apport des parents pour obtenir des changements dans les systèmes éducatifs actuels?
Nous, en tant que parents, parce que vous êtes sans ignorer que l'éducation commence en famille et puis elle se poursuit à l'école, elle peut s'achever à l'église. Nous, en tant que parents, nous devons collaborer avec les écoles. Nous sommes les partenaires des écoles ou des enseignants. Nous devons travailler ensemble avec les écoles. L'école donne les travaux, donne des tâches aux enfants. Mais nous, à la maison, en tant que parents, nous devons suivre la faisabilité de ces travaux. Il y a des parents qui envoient les enfants à l'école, mais ne savent pas dans quelles conditions leurs enfants étudient. Vous allez trouver un parent qui envoyait son enfant à l'école, mais toute l'année, ses parents n'est pas passé à l'école voir se renseigner, suivre l'évolution de son enfant. Et c'est seulement à la fin d'année que le parent est surpris que l'enfant qui a été inscrit dans telle école n'a pas fini l'année dans cette école parce qu'il a été renvoyé et il s'arrange lui-même à aller trouver une autre école sans pour autant le parent ne sache. Et ils viennent seulement le savoir à la fin d'année. Quand ils viennent pour le point, ils ont dit, bon, votre enfant n'a pas étudié ici parce que son nom n'est pas dans notre registre. D'ailleurs, c'est un enfant qui a été soit renvoyé dès le début ou il a fréquenté l'école tout au début là et puis il a disparu. Donc, nous, parents, nous sommes là pour le suivi et pour travailler en collaboration avec l'école.
Pensez-vous que c'est possible de voir ces changements?
C'est possible, oui. C'est possible avec la volonté de l'État, avec la volonté de l'enseignant, avec la volonté des parents.
Dans combien de temps cela peut être possible?
Le temps exact ne peut pas être donné ici, mais du moins, si l'enseignant, le parent et l'État doivent travailler ensemble, dans un bref délai, on peut remonter le système éducatif de notre pays.
Merci, Odon Kela, nous remercions.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Il est temps pour nous de suivre nos invités. Et notre premier invité est un expert de l'éducation, coordonnateur national de la FENECO UNTC, chargé de l'éducation et la formation. Monsieur Matondongué Larigobert vient d'être récemment élu président national du conseil d'administration de la coalition nationale de l'éducation pour tous. Dans son entretien avec Stanislas Diomi, il affirme que le système éducatif congolais nécessite des améliorations pour permettre son adaptation dans l'environnement et les réalités du monde actuel. Suivez.
Bonjour, monsieur Matondongué Larigobert. Bonjour.
Vous êtes coordonnateur national de la FENECO, chargé de l'éducation et la formation, et vous venez d'être élu président national du conseil d'administration de la Coalition nationale de l'éducation pour tous. Toutes nos félicitations.
Merci beaucoup.
Et l'émission Bana Okapi traite le sujet sur le système éducatif de la RDC. D'après vous, ce système nécessite un changement?
Oui, notre système éducatif nécessite un changement ou bien des améliorations par rapport à l'actualité que nous avons, par rapport à l'environnement dans lequel notre système éducatif fonctionne. Donc, il faudrait quand même que nous puissions parler sur certains points que nous devons améliorer pour que notre système éducatif soit réellement adapté à l'ère actuelle.
Qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui doit être amélioré?
Bon, en fait, ce qui ne marche pas, c'est d'abord l'adaptation dans la vitesse du changement que nous constatons ces derniers temps. Nous sommes en train de voir que notre système éducatif à des bases anciennes aussi, et qu'aujourd'hui, nous sommes en plein 21e siècle. Il y a certaines choses qui changent. Je peux prendre déjà l'exemple de l'avènement de nouvelles technologies de l'information et de la communication qui n'étaient pas jadis avec nous, mais maintenant, aujourd'hui, chacun de nous est en train de toucher des téléphones, chacun de nous est en train de communiquer de loin, ce qui ne se faisait pas, et donc l'éducation doit aussi s'adapter à ce niveau-là. Il y a aussi l'existence des réformes. Et quand nous avons, par exemple, des réformes, aujourd'hui, nous parlons de la gratuité. Comme il y a la gratuité, et donc nous devons savoir aussi que la gratuité a aussi des effets induits. Et ces effets induits doivent être pris en compte pour que nous puissions atteindre une amélioration de la qualité de notre système éducatif. Mais aussi, en ce qui concerne non seulement la qualité, mais aussi l'accès. Dans l'accès aussi, il faudrait tenir compte de toutes ces réformes-là que nous prenons, qui vont faire en sorte que chaque enfant puisse réellement venir à l'école, mais non seulement pour venir à l'école, mais il doit apprendre quelque chose et il doit aussi être à même de pouvoir défendre ce qu'il est en train d'apprendre au niveau de l'école. Il y a également le système de la gouvernance de notre système éducatif qui doit aussi changer, qui doit aussi tenir compte des différents enjeux de l'heure, notamment en ce qui concerne, par exemple, la redevabilité. Nous avons vu qu'à un certain moment, parfois, on n'était pas trop redevable, on avance et pratiquement les gens marchaient à vase clos. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de la participation, donc la participation doit être un point important par rapport au système éducatif qui doit être géré de manière partenariale. Donc, il y a beaucoup de points que nous devons changer pour que nous puissions atteindre un certain niveau.
Qu'est-ce qui a été à la base de cette dégradation du système éducatif de notre pays?
Bon, ce qui était à la base de la dégradation de notre système éducatif, c'est d'abord, il y a les problèmes des politiques éducatives. Vous savez, quand nous sommes des pédagogues, quand nous avons devant nous, devant un système, nous devons savoir que le système doit répondre aux besoins de la communauté, aux besoins du pays, aux besoins du monde. Mais quelque part, le changement du monde est venu brusquement et nous, les systèmes éducatifs, nous partons à pas de tortue. Et ce qui a fait que, par exemple, dans le cadre de l'enseignement, il y a eu quand même des systèmes de l'enseignement traditionnel qui continuaient et aujourd'hui, l'enseignant qui était toujours au centre de son évolution, du développement de son travail, n'est plus aujourd'hui à même de contenir tout ce que l'enfant a besoin. Et c'est ce qui a fait que maintenant, il y a même des changements, des approches pédagogiques qui font que l'enfant puisse être au centre. Et pendant ces temps, ces retards que nous avons pour, par exemple, former les enseignants, ces retards que nous avons sur nos politiques de formation, sur nos politiques de management par rapport à l'éducation fait en sorte que nous puissions être en retard. Et donc, nous devons faire un effort pour rattraper ce retard.
À votre avis, comment peut-on maintenant améliorer les systèmes éducatifs en RDC?
Oui, pour améliorer les systèmes éducatifs en République démocratique du Congo, je crois que nous avons déjà des bonnes bases, parce que quand nous avons vu que nous avons des textes, notamment la Constitution, qui nous parle de l'éducation, des qualités que nous devons avoir, nous avons aussi la loi cadre qui nous parle aussi de la manière dont nous devons gérer le système éducatif en République démocratique du Congo. Nous avons encore d'autres textes, des arrêtés, ainsi de suite, qui organisent, n'est-ce pas, notre système éducatif, qui est un système éducatif très bien structuré. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, ce que nous devons améliorer, c'est que pour chaque point que nous avons, par exemple, au niveau de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation qui tend vers la fin d'ici l'année prochaine, là, nous avions les axes qui étaient déjà préparés, notamment l'accès, la qualité et la gouvernance. Maintenant, pour chaque axe, il y a eu des réformes. Mais ces réformes-là, parfois, ne suivent pas. Parce que nous avons parlé de la gratuité en ce qui concerne l'accès. Les enfants sont venus. Maintenant, il était question que ces enfants puissent avoir un enseignement de qualité et que ces enfants qui sont venus en des milliers puissent aussi travailler dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a la partie de la qualité. En ce qui concerne la qualité, il y a le problème de conditions de vie des enseignants. Vous savez, lorsque un enseignant, il y a William Booth qui disait, on ne peut pas enseigner à quelqu'un qui a le ventre vide. Et la personne qui enseigne ne doit pas aussi avoir le ventre vide. Donc, il faudrait que l'enseignant puisse être mis dans des conditions favorables. Il ne doit pas avoir de soucis de sa famille, il ne doit pas avoir de soucis de ce qu'il doit manger, mais il ne doit pas aussi avoir de soucis de matériel qu'il doit utiliser pour la communication, pour échanger avec ses enfants ou bien ses apprenants. Il y a aussi, toujours dans le même cadre de la qualité, donc oui. L'enseignant a besoin d'avoir son salaire décent, parce que c'est lui qui est l'auteur même du changement que doit avoir notre pays. Parce que nous disons que l'éducation, comme l'a dit Nelson Mandela, que l'éducation, c'est même le moteur. L'éducation, c'est le moteur du changement d'un pays. Donc, nous devons faire en sorte que notre éducation puisse être tenue par des gens qui sont motivés, des gens qui sont pour tout cela, pour que les choses puissent évoluer. En ce qui concerne la gouvernance, nous sommes en train de voir que il y a un problème aussi de la politisation du secteur. Dans notre secteur, c'est pratiquement tout le monde qui veut venir enseigner. C'est comme si c'est dans l'enseignement où on trouve le travail. Mais nous avons dit que l'enseignement ne peut être tenu que par des gens bien formés, bien motivés et des gens qui peuvent avoir ce souci de ce pays. Parce que l'enseignant doit être un modèle. L'enseignant doit être à l'abri. Donc l'enseignant doit être protégé. Mais aujourd'hui, l'enseignant, moindre petite chose, non, voilà, c'est la politique. Non, tel a dit. Et donc, nous sommes en train de voir finalement que les enseignants sont un peu, ne sont plus tellement libres dans l'exercice de leurs fonctions. Et ça, c'est au niveau de la gouvernance, ça doit changer.
Stanislas Diomi, je reviens vers vous pour la suite de votre entretien avec M. Matondongela Rigobert, expert de l'éducation, coordonnateur national de la FENECO UNTC, chargé de l'éducation et de la formation.
Monsieur Rigobert, s'il faut penser à la réforme du système éducatif de notre pays, quelles seraient vos suggestions?
Oui, en ce qui concerne la réforme, s'il faudrait qu'on puisse changer, d'abord, nous, en pédagogie, nous disons peu, mais bien. Et on nous dit aussi que trop de réformes tuent la réforme. Ce qui signifie que tout ce que nous voulons faire, nous devons tenir compte de tous les moyens possibles. Lorsque nous voulons dire, par exemple, nous avons besoin de la gratuité. Alors là, maintenant, mettons tout en œuvre pour que la gratuité puisse être vraiment une réussite. Les intrants, les matériels didactiques, le manuel scolaire, les infrastructures, tout cela doit faire en sorte que le moyen financier puisse suivre tout cela. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faudrait que nous puissions tenir compte d'abord des enseignants professionnels. Il faudrait qu'on puisse avoir des enseignants professionnels et non des enseignants qui pensaient que peut-être l'enseignement c'est un tremplin. Demain j'aurai à faire autre chose. Nous avons besoin de ces enseignants professionnels qui doivent être autonomes et qui doivent participer régulièrement à des formations continues de qualité et qui doivent travailler en coopération avec les autres. Donc, il faudrait que l'enseignant puisse revenir, devenir encore le modèle comme autrefois. Nous devons aussi avoir des programmes ou de curricula qui sont flexibles, qui visent l'essentiel et les objectifs de tenant compte des besoins de notre société. Et donc, notre système éducatif doit réellement être contextualisé pour savoir que hier c'était ceci, aujourd'hui ceci, nous pouvons changer. Et à travers le monde, quand il y a telles activités, comment nous pouvons faire dans notre pays pour que ces activités puissent réussir? Également, nous devons organiser correctement les travaux scolaires et même académiques en utilisant des pédagogies appropriées comme les pédagogies différenciées. Moi, je me dis toujours qu'un enseignant qui reçoit 50 élèves, 60 élèves, ne devra pas voir la masse, mais il doit voir comment chaque élève, chaque apprenant est en train d'apprendre. Parce que le rythme d'apprentissage n'est pas le même pour tous les enseignants et pour tous les apprenants. Et donc, cet enseignant-là doit être d'abord un psychologue. Il doit savoir analyser, étudier chaque élève et puis le connaître pour que cet apprenant-là puisse réellement recevoir le remède qui nécessite, n'est-ce pas, sa maladie, je peux dire. Donc ça, c'est très important. Mais nous devons aussi faire appel à tous les acteurs éducatifs pour que nous puissions aller tous de l'avant. On ne peut pas aujourd'hui parler de l'exclusion. Nous avons besoin que tout le monde mette la main dans la pâte, parents, enseignants, organisations nationales et internationales. Nous avons les bailleurs de fonds, tout le monde, les confessions religieuses, tout le monde doit se mettre ensemble pour voir vers la même direction. Et de cette manière-là seulement que nous pouvons dire que nous avons maintenant un système éducatif inclusif. Et de ce côté-là, il faut aussi voir tout ce qui est, peut-être enlever tout ce qui est discrimination. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous puissions avoir dans notre système éducatif tous les apprenants qui doivent être là, jeunes, vieux, personnes handicapées. Nous devons avoir aussi tous les vulnérables. Ils doivent passer sur les bancs de l'école pour que nous puissions avancer correctement. D'ailleurs, nous avons aussi dans notre objectif 4 qui nous dit l'apprentissage tout au long de la vie. Ce qui signifie que William Booth qui a dit que cesser d'apprendre, c'est cesser de vivre. Il a dit cela, c'est parce que nous devons savoir que l'homme doit continuellement apprendre pour qu'il puisse se développer et s'adapter par rapport à notre nation. Et il y a autrefois, c'est la valoriser la culture des évaluations efficaces. Ça, c'est aussi des choses que nous devons voir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des évaluations qui se font, mais le plus souvent, les évaluations ne sont pas, soit c'est au niveau trimestriel, au niveau semestriel, au niveau, par exemple, de la fin de l'année ou de fin cursus. Mais nous devons savoir que les évaluations à mi-parcours doivent nous aider aussi à adapter ce que nous sommes en train de faire pour que nous puissions avancer. Donc, voilà un peu quelques points que je pouvais dire qui peuvent faire en sorte que les réformes puissent réussir dans notre système éducatif, directement en partant par la définition des politiques éducatives durables, systémiques, avec la participation de toutes les parties prenantes.
Monsieur Matondo Ngela Rigobert, je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la FENECO, chargé de l'éducation et la formation, et vous venez d'être élu président national du conseil d'administration de la coalition nationale de l'éducation pour tous. Nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
C'est moi qui vous remercie. Okapi, Okapi,
Okapi. Votre magazine préféré, Bana Okapi, se poursuit. Je rappelle qu'il est question dans ce magazine de parler du système éducatif de la RDC. Est-ce que ce système a-t-il besoin de changement? Pour le coordonnateur du secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur de l'éducation SPES, Valère Moncia, ce système a besoin du changement. D'ailleurs, l'ambition du gouvernement en organisant les assises du 16 au 19 septembre était de développer les systèmes éducatifs congolais à travers la mise en œuvre des différentes réformes qu'elle préconise. Monsieur Valère Moncia s'entretient avec Ezekiel Mouzalia.
Monsieur Valère Moncia, bonjour.
Bonjour.
Du 16 au 19 septembre à Kinshasa, des acteurs du secteur de l'éducation en RDC avaient participé à l'élaboration du nouveau plan stratégique pour l'éducation après 2025. Pour un peu aller dans le vif du sujet, si nous revenons en arrière, qu'est-ce qui est ressorti de ces assises?
Non, mais d'abord, je me permets de rectifier. Il ne s'agissait pas de l'élaboration du nouveau plan stratégique. Il s'agissait de la revue de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016 et 2025. Ces assises avaient été pilotées par les quatre ministres du secteur de l'éducation. Il y avait les partenaires techniques et financiers, donc les bailleurs de fonds, la société civile, les associations de parents, les confessions religieuses, en fait, toutes les parties prenantes de l'éducation étaient là pour faire le bilan de pratiquement 8 années de mise en œuvre des réformes préconisées par la stratégie de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation pour la période que je viens d'indiquer, à savoir 2016 et 2025.
Quels sont les principaux objectifs de cette stratégie pour l'éducation après 2025?
Oui, donc l'objectif de cette stratégie qui commence progressivement à aller à son terme, c'est d'abord, le premier objectif, c'était de pouvoir faire en sorte que les secteurs, disons les sous-secteurs de l'éducation, les quatre ministères que je viens d'indiquer, puissent communiquer entre eux. Ça, c'est des premiers. Donc, ça, c'est vraiment, il faut qu'il y ait un dialogue permanent entre les quatre ministères. L'objectif, c'est de pouvoir donc développer, transformer le secteur de l'éducation, le système éducatif, et en même temps, le développer. Le développer comment? Mais sur la base des réformes qui ont été identifiées et qui sont préconisées par ces documents de référence qui est la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation.
Et comment le gouvernement prévoit d'améliorer l'accès à l'éducation dans les zones rurales et les régions touchées par des conflits?
L'accès est un des axes principaux de cette stratégie, en plus de la qualité et de la gouvernance. Donc, puisque vous me posez la question sur l'accès, évidemment, qui dit accès, c'est comment faire en sorte que les enfants, les jeunes, les élèves puissent aller à l'école sans donc facilement. Comment scolariser? Donc, c'est de répondre à la question de comment scolariser les enfants congolais. Alors, il n'y a pas mille manières. Il y a donc, d'un côté, il y a la demande d'éducation qui est exprimée par la société, par les parents, et de l'autre, il y a la demande d'éducation. Et donc, c'est comme dans un marché, il y a donc l'offre et la demande. Oui. Et donc, c'est l'État qui doit offrir l'éducation aux enfants à travers donc leurs parents. Et cette offre passe par quoi? Ça passe, il y a des conditions, il faut que l'environnement des études soit bien fait, soit sécurisé, soit propice. Il faut qu'il y ait des infrastructures, il faut que l'enfant qui est à côté et qui voudrait aller à l'école puisse y aller sans aucun problème, et ainsi de suite. Et donc, en ce qui concerne notamment l'éducation de base, vous savez que le chef de l'État a décrété depuis 2019, la gratuité de l'enseignement de l'éducation de base, en commençant par l'enseignement primaire.
Oui.
Et donc, on a supprimé les frais scolaires directs que les parents payaient à l'école pour que leurs enfants aillent à l'école. Tous ces frais ont été supprimés et ça milite, ça favorise la scolarisation.
Est-ce que dans cette stratégie, il y a aussi des initiatives peut-être pour améliorer et promouvoir une éducation inclusive, hein, même pour les enfants en situation de handicap et d'autres justement qui sont dans des conditions déplorables?
Oui, bien sûr, parce que quand nous parlons accès, il y a pas que l'accès, mais c'est l'accès, l'équité et l'inclusion. L'équité, il faut que tous les enfants aillent à l'école. Je pense que la mesure de gratuité règle donc la question de l'équité. En ce qui concerne l'inclusion, nous savons qu'il y a des enfants il y a des enfants handicapés, il y a des enfants qui sont vulnérables, des enfants qui sont plutôt des populations autochtones un peu marginalisées. Et donc, il y a tout un ensemble de mesures qui doivent être prises pour que tout cet enfant aille à l'école. Et nous savons également que quand les enfants vont à l'école, et surtout les filles, il y a des violences. Des garçons, des enfants peuvent être violentés, les filles peuvent être violées, etc. Et au niveau, par exemple, du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, il a été institué ce qu'on appelait le mécanisme de gestion des plaintes. Donc, c'est avec un numéro vert. C'est le numéro 178. Mmh. Pour parler comme les Belges, c'est 178. C'est un numéro vert où on peut appeler gratuitement pour pouvoir dénoncer tous les cas de violence en milieu scolaire ou sur la route de l'école.
Ouais.
Et il y a des opérateurs qui travaillent et qui travaillent jour et nuit qui enregistrent tous ces appels pour que les autorités compétentes puissent réagir le plus rapidement possible. Tout ça, c'est pour que le milieu scolaire soit inclusif, non seulement sécurisé et protégé, mais également inclusif. De sorte que les enfants qui vont à l'école y aillent sans problème et qu'ils puissent suivre les enseignements sans problème. Tout ça, c'est pour que vraiment ce soit un milieu sécurisé.
Peut-être pour finir, quel changement aimeriez-vous voir dans le système éducatif pour améliorer la qualité des enseignants, de l'enseignement?
Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions. On ne dort pas, on travaille d'arrache-pied, pas seulement au niveau de notre bureau, mais ce sont des discussions qui qui mettent ensemble, auquel participent toutes les parties prenantes. J'ai parlé bien sûr du gouvernement, mais il y a également les bailleurs de fonds, il y a la société civile, il y a les confessions religieuses, il y a les parents, tout ça avec des experts pour qu'ensemble nous puissions voir comment améliorer la qualité de l'éducation dans notre pays. Et je pense qu'il y a eu un consensus qui s'est dégagé. Il y a bien sûr beaucoup de leviers sur lesquels on peut appuyer pour que la qualité s'améliore, mais nous nous sommes mis d'accord. En fait, on a hiérarchisé, on a priorisé, et nous avons pensé que le levier priorité devait être l'enseignant. Il faut traiter la question de l'enseignant, il faut agir sur l'enseignant pour que la qualité d'éducation s'améliore. Comment agir sur l'enseignant? Il y a un certain nombre de réformes qui sont mises en place. On doit réformer la formation initiale des enseignants. On doit renforcer la formation continue, mais on doit également valoriser, si vous voulez, le métier de l'enseignant. Et nous avons déjà, pour ça, il y a déjà des actions qui sont déjà en route. Le gouvernement a déjà lancé des actions. Son Excellence, Madame la ministre de l'Éducation nationale, elle est vraiment au front. Il y a des actions qui sont en route, mais également avec l'appui des partenaires, notamment la Banque mondiale, la France, la Belgique, etc., ils en passent. Par exemple, de manière concrète, on va lancer dans quelques jours la construction des instituts de formation au métier de l'enseignant. En fait, on s'est rendu compte que les enseignants, donc nos futurs enseignants, n'étaient pas suffisamment et efficacement préparés au métier d'ancien pour devenir enseignant. Oui. La preuve, c'est que quand on a fait un sondage au niveau de nos finalistes, qu'ils soient du secondaire ou des ISP, on s'est rendu compte que la grande majorité de ces finalistes n'avaient pas la vocation de devenir enseignant. En fait, ils vont dans des modèles pédagogiques, non pas pour devenir enseignant, mais pour aller plutôt au niveau, pour faire d'autres formations.
Monsieur Valéry Moussia, merci.
Je vous en prie.
C'est par cet entretien que nous bouclons notre magazine du jour qui parlait du système éducatif de la RDC. Y a-t-il un besoin du changement? Sarah Soumbel a été à la présentation de votre émission, mise en onde de Alain Goyi, une réalisation de Gisèle Cage, sous la supervision de Jean-Marc Matweke Mofelele, Dijano. Ce magazine a connu la participation de Plamidi Mbiyavanga, grâce aux réseaux de Rachel Kessembangu, Ezekiel Mouzalia, André Kitenge, Jeff Opé, la Grévis Salumu, Etienne Lissumbu, Guylaine Kassassia et Stanislas Diumi. Toute l'équipe Bana Okapi vous fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro du magazine Bana Okapi. Ciao.